Bonjour, je m'appelle Joëlle Boulay. Bienvenue à Jason Éducation.
Aujourd'hui, notre invitée, Lucille Denis.
Je m'appelle Lucille Denis. Bienvenue à Jason Éducation, où nous parlons des sujets qui intéressent les pédagogues qui travaillent en français dans un contexte minoritaire. Nous, des enseignants déterminés et ambitieux, nous posons de bonnes questions pour nous faire réfléchir à la pédagogie afin de mieux appuyer nos élèves.
Bonjour Lucille, bienvenue à Jason Éducation. Comment ça va?
Ça va bien, merci beaucoup de m'inviter encore une fois. J'ai vraiment beaucoup de plaisir de faire ces épisodes.
Oui, moi aussi, c'est pour ça que je te réinvite, parce que c'est toujours, j'apprends toujours tellement, puis c'est des choses super pertinentes aux enseignants, aux pédagogues. Donc, alors aujourd'hui, je crois qu'on va parler de la différenciation en salle de classe en contexte minoritaire, et surtout comme en lecture et en écriture.
Oui, c'est ça. Et puis, moi, je vais d'abord y aller avec brièvement avec des modèles théoriques. Puis après ça, on va y aller avec plus des cas d'élèves. Et puis, tu vas pouvoir ajouter ton expérience. Fait que ça va être parfait.
Oui, ça, c'est super de commencer avec la recherche pour voir que oui, il y a des bases à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Et là, OK, allons voir la pratique.
Alors, on y va d'abord avec le Science of Reading et puis le modèle de Scarborough. Ces deux modèles-là sont vraiment plus ciblés sur la lecture. Et dans le fond, ils disent que les habiletés de décodage et les habiletés de compétences langagières ensemble sont plus fortes pour pouvoir assurer après une meilleure compréhension. Donc après, je vous invite à aller voir plus en détail le modèle de Scarborough parce qu'il y a différentes habiletés pour le décodage et différentes habiletés pour la compétence langagière. Et quand on travaille toutes ces habiletés-là, que ce soit dans l'automatisation de la lecture ou dans le développement de stratégies, ben on va donner déjà une base, un bon terreau fertile pour pouvoir assurer une compréhension. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. On a aussi la conception universelle des apprentissages, où là, en fait, c'est plus l'environnement qui va être adapté à l'apprenant plutôt que l'apprenant qui doit s'adapter. Et en fait, la conception universelle des apprentissages, à la base, c'est basé sur l'architecture. C'était vraiment de mettre en place dans l'environnement de la ville, d'une ville, des accès pour tout le monde, qu'on soit valide ou moins valide ou handicapé, etc. Donc ça a été transposé dans le modèle, dans l'éducation. Et puis on a aussi le modèle de réponse à l'intervention, où c'est là vraiment qu'on va parler de différenciation. Et je vais te parler un petit peu plus, c'est quoi la réponse à l'intervention? Dans le fond, c'est une pyramide où on pense, où on dit que 80% des élèves ont un enseignement explicite, efficace. Donc, je vais revenir, c'est quoi un enseignement efficace? Où notre intervention pour toute la classe va être assez efficace pour que les enfants comprennent. Mais il y a toujours un 20% qui ne va pas comprendre. Alors, 20% c'est un chiffre, mais c'est à peu près. Et donc, ce 20%-là va avoir besoin d'une un réenseignement, en fait, un peu plus ciblé, un peu plus fréquent. Et il y a toujours encore un 5% qui va rester. Et généralement, c'est les élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Donc, comment on va intervenir dans cette pyramide-là pour supporter les élèves, pour soutenir les élèves dans leurs apprentissages? Il y a Atti et Marzano qui ont fait une recherche sur plusieurs années, je pense que c'est sur 20 ans, c'est aux États-Unis, et ils ont répertorié quels sont les enseignements, les 8 compétences qui permettent d'avoir une réussite des élèves. Et une des compétences, c'est l'enseignement explicite. C'est-à-dire, alors, enseignement explicite, ça ne veut pas dire que je vais parler pendant des heures, au contraire, c'est explicité, c'est-à-dire on va expliquer qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour que l'enfant puisse comprendre. Et pour ça, on va présenter ce qu'on enseigne, le quoi, le comment on va le faire, quand est-ce qu'on va l'utiliser et le pourquoi. Et moi, à chaque fois, je commence une leçon, je commence avec j'ai toujours un PowerPoint ou un Google Slide ou autre, et je marque toujours quoi, pourquoi, quand et comment. Comme ça, les élèves en difficulté, puisqu'on parle de différenciation, ont ce support-là. Et moi, en plus, je mets toujours des pictogrammes. Fait qu'on parlait de contexte minoritaire. Donc, si l'enfant n'a pas une compréhension du mot, ben, il y a au moins un support visuel, pictogramme, qui va pouvoir l'aider. Donc, moi, je suis très picto. J'adore ça. aussi, ce qu'ils disent, au niveau des enseignements efficaces, c'est de donner des rétroactions immédiates. Et une rétroaction, ça se fait en 3 parties. C'est qu'on va dire à l'enfant qu'est-ce qu'il a réussi. Donc, ça peut être à l'oral, mais ça peut être à l'écrit aussi. Donc, qu'est-ce qu'il a réussi? C'était quoi l'objectif? Est-ce qu'il a atteint son objectif? Bravo. C'est quoi son prochain objectif? Et surtout, comment il va le faire? Puis ça, on peut le faire avec les routines de pensée. Moi, c'est vraiment un truc que j'adore. Donc, pareil, mettons un enfant décide de faire un show and tell. Tu sais, montrer et raconte, c'est ça. Et puis, ou autre exposé à l'oral. Et on va demander à 3 élèves de faire un donne 3. Donc, qu'est-ce qu'il a aimé? Ce serait quoi son prochain objectif à l'enfant et comment il pourrait le faire? Puis là, on va marquer au tableau les stratégies pour comment faire, etc. Donc, il y a comme un retour sur ce qu'il a fait et ça permet aussi aux autres élèves de comprendre comment eux, ils pourront se progresser pour les prochaines fois, etc. Est-ce que tu connaissais ça, les routines de pensée?
Non, c'est la première fois que j'entends parler de ça, mais j'aime que ça vienne des élèves, pas forcément juste comme de l'enseignant, l'enseignante, parce que ça aide les autres élèves aussi à ensuite reconnaître ça en eux.
C'est ça exactement. Moi, j'adore. Alors, ça, c'est une des routines de pensée, mais si tu vas sur Internet et que tu tapes routine de pensée, tu vas avoir plein d'autres exemples. Ça peut être mets-toi à la place d'un auteur, ça peut être. À un moment donné, il y a comme différentes perceptions d'une image, etc. En tout cas, il y a vraiment. C'est assez riche. Après ça, moi, ce que j'aime beaucoup faire en septembre, en janvier, puis je viens de l'en faire là, justement, en juin, mais on peut le faire en mai aussi, ce sont ce que j'appelle des portraits de classe. J'avais une enseignante de cinquième année qui disait « Ok, je ne sais pas, vraiment, elle est nouvelle dans mon école, tu vois, et elle ne sait pas trop c'est quoi, du coup, le niveau des élèves en orthographe. » Donc là, on a fait un portrait de classe, c'est-à-dire qu'on a identifié quelles règles d'orthographe les élèves étaient supposés avoir et celles qu'elle voulait enseigner jusqu'en décembre. Donc, on a identifié celles qui nous semblaient importantes. C'est vraiment adapté à la classe. Fait que si on a un contexte français minoritaire, mais on peut cibler les on, les en, les un. Donc d'abord les sons de base, puis après aller dans des règles orthographiques, genre e a u en fin de mot, ou le m devant le p, le b, le g dur, le g doux. Ça c'est plus des règles orthographiques. On va d'abord cibler les sons s'il faut. Dans mon contexte avec l'enseignante, le « on », le « en », ça allait quand même assez bien, fait qu'on est tout de suite allé dans les règles orthographiques, donc les règles contextuelles. J'ai donné une feuille aux élèves, c'est à peu près une trentaine de mots, ça peut être des mots ou des non-mots. On essaie qu'ils ne soient pas trop fréquents, parce qu'on veut savoir s'ils appliquent la règle, donc on leur donne une dictée de mots, et on récupère les copies, puis là on peut faire un tableau, on peut analyser quelle règle est comprise par les élèves. Donc si à peu près 75-75%, ça dépend du contexte de la classe, cette règle-là est acquise, on ne va pas l'enseigner. Par contre, on va voir quels sont les élèves qui en ont besoin, puis là on va peut-être faire un petit groupe de soutien pour ces élèves-là. Par contre, si on voit, régulièrement les œil, ouï, aïe, c'est raté. Même en cinquième année, sixième année, huitième année, c'est raté. Donc, je donne exprès dès septembre des mots avec « ei, ouï, aï ». Des fois même, j'invente des mots avec ça, parce que souvent, ils ont écrit le mot « grenouille », puis des fois, ils l'ont appris par cœur, tu vois, mais ça ne veut pas dire qu'ils maîtrisent le « ouï ». Donc, des fois, je leur donne des mots inventés avec le « ouï », le « ei ». Et puis là, je regarde dans mon tableau si c'est comme, mettons, 20%, ce qui peut arriver très régulièrement. 20%, ça veut dire qu'il va falloir que je l'enseigne. Donc, et je fais une distinction entre masculin et féminin, parce que ça se peut qu'il ait le « œil », mais qu'il oublie le « le » à la fin. Donc, ça veut dire qu'il maîtrise la graphie, mais peut-être pas la morphologie flexionnelle au niveau du féminin. Donc, il y a ça aussi à distinguer. Donc, ça, c'est moi, j'adore ça. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup analyser. Et après ça, je fais un post-test. Donc, j'enseigne. On fait des petites évaluations entre-temps, etc. Mais après ça, je fais un post-test. Comme ça, ça me permet de voir okay, qu'est-ce qu'ils ont retenu et qu'est-ce que je dois encore enseigner. Et je fais ça donc, dans 3 temps de l'année et je montre les résultats aux enfants, en fait. Parce que ça leur permet de voir, regardez, c'était quoi nos objectifs, voici sur quoi vous avez progressé et voici sur quoi on va travailler encore. Donc là, comme ça, je suis claire avec les élèves, on travaille en même temps le graphique, donc l'interprétation d'un graphique, et c'est vraiment sur eux, par rapport à eux et leurs résultats. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'aime beaucoup, personnellement.
Puis, comment est-ce que tu enseignes, par exemple, une règle orthographique, puis pendant combien de temps est-ce que tu l'as fait?
Ah, alors... Là, il faudrait faire un autre podcast sur les règles orthographiques, parce qu'en plus, j'adore ça. Alors, dans le fond, ce que je fais, c'est que la première journée, je fais un enseignement explicite de la règle. Donc, j'y vais avec une règle contextuelle. Je vais y aller avec le « o » en fin de mot, le « e » a « u ». Ce que je dis aux enfants, c'est que quand j'entends « o » en fin de mot, la plupart du temps, ça s'écrit « e » a « u ». Il y a des exceptions, « moto », etc., qui est comme un raccourci, mais bon. Donc, l'enfant, même en difficulté, va savoir qu'il va pouvoir s'appuyer sur ces règles-là, ces régularités orthographiques-là qu'on peut trouver sur Internet pour pouvoir écrire des mots. Après ça, on peut utiliser différents dispositifs. On peut faire, je vais en parler tout à l'heure, mais je vais en dire maintenant. On peut parler de la dictée négociée. On peut parler de l'orthographe approchée pour les plus jeunes. On peut parler de... Il y a la dictée frigo aussi. Il y a toutes sortes de dispositifs, dictées métacognitives, zéro faute, etc. Donc, tous ces dispositifs-là, on peut les utiliser. Si on est contre les dictées ou qu'on ne veut pas faire les dictées, ça peut être des jeux autour de l'orthographe. Dans le mot bateau, il y a combien de voyelles ? Épelle bateau à l'envers. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que l'enfant ait une image claire du mot dans sa tête. Ça peut être « trouve-moi, invente-moi des mots avec E-A-U à la fin ». Donc, ça peut être ou des mots cachés, en tout cas, plein de choses comme ça. Il y a un jeu qui s'appelle « L'orthographe sans papier ni crayon » de Daniel Daigle. Et c'est extraordinaire. Donc, en fait, c'est une boîte de jeu avec des cartes. Il y a des questions comme ça. Et j'ai fait ça, moi, hier, avec des sixième années. Donc, ils devaient trouver... Et là, pour les sixième années, ils devaient trouver trois mots avec trois sons. Et pour eux, et c'était hyper difficile. Parce qu'ils sont tellement habitués à avoir des longs mots. Et bien, ils ont confondu syllabes et sons, sons et lettres. C'était vraiment drôle. Donc, c'est vraiment de retravailler ça aussi avec les élèves. Le nombre de voyelles, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne savent pas c'est quoi une voyelle. Donc,
Oui, je suis d'accord avec ça.
Et les voyelles, ça vient du mot « voix », en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstruction dans ta bouche quand tu dis le « a ». Alors que quand tu dis le P, ta bouche, elle se ferme. Mais A, E, ça vient de la voix, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on dit voyelle. Voilà.
Oui, je suis en train de dire toutes les voyelles. Et oui, c'est vrai que ça touche rien.
Ouais. Ouais. Après ça, donc, une fois que tu as établi tes objectifs, donc tu as fait ton portrait de classe, tu vois à peu près les objectifs à travailler, tu peux faire des sous-groupes de soutien. Donc là, il existe des modalités comme le plan de travail, où tu peux vraiment adapter selon les élèves. C'est qu'un élève qui est un peu plus avancé, tu sais, où son français est un peu plus... à l'aise en français versus un autre élève, bon, bah, cet élève-là, tu peux le mettre en autonomie, prendre un groupe d'élèves où tu peux travailler, peut-être revenir sur justement la confusion entre le « on » et le « en ». Qui est un grand classique chez les élèves anglophones. Donc, ça peut être ça. Tu peux travailler en sous-groupe de soutien. Donc, du coup, avec ton sous-groupe, tu peux aller un peu plus lentement versus quand tu travailles en groupe classe où tu vas suivre un rythme. Mais quand tu es en sous-groupe, tu peux ralentir le rythme, tu peux travailler une notion un peu plus précise, etc. Donc, ça, c'est super important pour faire de la remédiation, dans le fond.
Et qu'est-ce que les autres font pendant que tu travailles avec un sous-groupe?
Alors, soit tu peux leur donner, il y a des ateliers d'autonomie où tu peux leur donner des puzzles ou des jeux un peu, tu vois, qui demandent un peu plus de réflexion. Tu peux leur donner une fiche de lecture à lire, donc tout dépendamment une fiche de lecture à faire, un roman, et puis après, ils peuvent nous présenter à l'oral. Tu sais, maintenant, un élève qui est un peu plus élève à l'aise en français, ben, tu lui dis, ben, j'aimerais ça que tu me fasses un exposé sur tel auteur, Élise Gravel. Donc là, il peut lire plusieurs livres d'Élise Gravel et présenter le style de l'auteur, tu vois. Donc, ça permet aux autres élèves de connaître un auteur ou une autrice, Élise Gravel, et à l'entre-enfant d'avoir un peu plus poussé ses habiletés. Par contre, on ne dit pas à l'enfant « débrouille-toi ». Tu sais, d'abord, on peut faire pour tout le groupe comment faire une fiche de lecture, etc. Ça s'enseigne en grand groupe, puis après, l'élève peut être un peu plus en autonomie, tu vois. Au niveau du métacognitif, super important, on peut demander à l'élève de faire une auto-évaluation. Je sais que pour nous, en tout cas au BC, on a comme un document pour aider les élèves à faire leur auto-évaluation. Je ne sais pas dans les autres provinces s'il y a ça, mais en tout cas, nous au BC, on peut trouver sur Internet, c'est en français en plus, comment faire son auto-évaluation. Il y a plein de questions qui peuvent orienter les élèves, aider les élèves. Moi, ce que je fais aussi, mettons, j'ai une situation d'écriture. Donc, je leur présente la grille de correction. Je leur présente mes attentes. Donc, il y a quatre échelles. Et voici, moi, mes attentes, ce que j'attends de vous. Donc, pour chaque critère, je leur dis ce que je veux observer. Et je leur demande aussi d'établir leur propre objectif. Toi, à la fin de ton travail, tu seras fier de toi parce que qu'est-ce que tu auras accompli. Donc, il y en a un, c'est peut-être... Alors, attention, il y en a un qui dit « aucune faute d'orthographe ». Ça se peut que ce soit un petit peu impossible. Alors, peut-être de recadrer l'enfant et de dire « ah ben, peut-être c'est juste de travailler tes pluriels ». Donc ça, c'est, pour moi, c'est important. Et de faire comprendre nos attentes aux élèves. Moi, j'ai souvent des élèves, au lieu d'écrire une histoire, ils m'écrivent une pièce de théâtre ou ils m'écrivent un documentaire ou le contraire, c'est un documentaire puis ils m'écrivent une histoire. Ou à un moment donné, on a demandé aux enfants d'écrire une histoire sur qui se passait en Égypte antique pour faire un lien avec le cours d'histoire. Et beaucoup m'ont fait des anachronismes. Ils mettaient des choses qui étaient du 21e siècle. Donc là, on disait, ben non, ça ne marche pas. Donc de les recadrer comme ça. Il y a aussi le tableau SAV, c'est ce que je veux apprendre. Ce que je sais, c'est SVA, pardon. Ce que je sais, ce que je veux apprendre. Et à la fin, on revient sur ce tableau avec ce que j'ai appris. Donc, ce que je sais, ça part des connaissances antérieures. Fait que pour qu'une nouvelle connaissance puisse être intégrée, il faut que ça soit agrippé, accroché à une ancienne connaissance. Fait que de faire activer les connaissances antérieures des enfants, ça permet déjà de favoriser la mémorisation des nouvelles connaissances et de savoir est-ce que tout le monde a les mêmes connaissances de base. Parce que si on parle des synonymes et qu'il y a la moitié qui ne savent pas c'est quoi un synonyme et qu'on utilise ce mot en permanence, déjà là, on crée un débalancement. Et là, ça peut être traduit en anglais ou dans une autre langue. Mais ça, on avait fait un podcast hein, sur le plurilinguisme, etc. Fait qu'on peut regrouper des pratiques de notre ancien podcast avec ce nouveau-là. Donc, c'est ça, activer les connaissances antérieures. Ça peut être aussi augmenter les entrées sensorielles. Donc ça, c'est beaucoup dans une approche pour les élèves qui ont un trouble de langage écrit comme la dyslexie. On va favoriser les entrées sensorielles. Qu'est-ce que j'entends par là ? Plus un apprenant va faire appel à différents sens, puis là, je ne suis pas du tout dans « j'apprends par l'image » ou « j'apprends par le kinésesthésique ». Ça, c'est un mythe d'apprentissage. Je suis plus dans « multiplier ». Au lieu que ça soit juste à l'oral, donc juste par l'ouïe, on va lui donner un support visuel. On va lui faire redire ce qu'on vient de dire. Donc là, déjà, j'ai un appui visuel, un appui oral et un appui de la parole. Donc, j'ai trois sens qui sont, si tu veux, stimulés. Donc, il y a déjà une meilleure activation de son corps. Donc, il va être plus engagé et favoriser la mémorisation. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, moi, je suis très picto. Tu sais, je mets des pictogrammes un peu partout. Donc, c'est un peu ça. Donc, on modélise, on répète. Et il existe aussi le carnet de réflexion où on va demander à l'enfant « qu'est-ce que tu as appris de ta journée ?» Comment tu vas pouvoir l'exploiter dans un autre contexte, etc. Donc, si vous allez taper sur Internet carnet de réflexion, ils l'utilisent aussi en Belgique. Donc, ça peut être. Puis là, ça peut être fait dans n'importe quelle langue. Là, si l'enfant le fait en anglais ou en espagnol, je veux dire, ce qu'on veut là-dedans, c'est qu'il fasse un travail réflectif sur ce qu'il a appris et favoriser la rétention de l'information. On n'est pas sur l'orthographe. Fait qu'on ne corrige pas l'orthographe. On n'est pas là-dedans.
Donc, ça ressemble à quoi, ce carnet, papa?
C'est juste un petit carnet où l'enfant écrit qu'est-ce que j'ai retenu aujourd'hui, comment je vais pouvoir l'exploiter dans un autre contexte et je peux donner un exemple de comment je pourrais le réexploiter.
Pardon, ils font comme leur propre résumé, disons, de qu'est-ce qu'ils ont appris et ils donnent leur propre exemple pour comme appuyer.
Exactement. Aujourd'hui, j'ai retenu que quand j'entends « o » à la fin d'un mot, j'écris « eau ». Je pourrais le réexploiter mon travail sur Élise Gravel. Sur le bateau, je dis n'importe quoi là. Et voilà quoi.
J'aime beaucoup ça parce que j'ai déjà travaillé beaucoup les règles orthographe avec mes élèves. Mais c'est moi qui leur donnais les notes. Alors j'imprimais une petite fiche. Puis là, ça allait dans leur petit cahier. Mais j'aime que tu les forcer à redire dans leurs propres mots ce qu'ils ont appris parce que ça prend plus de travail, mais aussi. Je pense que les chances de retenir cette information sont plus élevées.
Tout à fait. Et tu sais ce que je fais? Moi, je fais le petit papier comme toi, mais tout ce que j'écris, c'est quand j'entends. Puis là, je dessine des oreilles, parce qu'on se rappelle que j'aime beaucoup les pictos. Et en dessous, la ligne d'en dessous, j'écris, ben justement, quand j'entends, mes petites oreilles, j'écris, puis là, je fais un crayon, et c'est à eux de compléter. Donc, quand j'entends « o », donc entre deux oreilles, à la fin d'un mot, la plupart du temps, j'écris, des fois je rajoute la plupart du temps, j'écris et eux, ils écrivent E, A, U. Et après, je donne un exemple. Après, il faut enseigner aussi les contre-exemples. Je pense notamment à la règle orthographique. Quand j'entends AF en début d'un mot, j'écris A, F, F. Le mot Afrique ne fait pas partie de ces règles-là. Afrique, c'est un hors-la-loi, c'est une exception. Fait qu'on va d'abord enseigner AF, A, F, F. Si vous connaissez le matériel, le scénario pour mieux écrire, il y a des exemples. Puis eux, ils appellent ça la règle du 9-1. Donc en contexte d'Amérique du Nord, c'est parfait. Dans un autre contexte, hors Amérique du Nord, le 9-1, ça ne fonctionne pas parce qu'eux, ils ne l'ont pas. Mais 9-1, pourquoi? C'est attention, affreux, accident, appelé 9-1-1. Donc attention, ATT, affreux, AFF, accident, ACC, appelé APP. Donc 9-1-1.
Oui, ça c'est très cool. OK, on a certainement ce manuel à l'école, je l'ai déjà vu. Puis, je pense que les activités sont faites plutôt pour les plus jeunes enfants, mais qu'on pourrait facilement les adapter pour notre niveau.
En fait, eux, ce qu'ils proposent, c'est qu'ils proposent une progression de la première année jusqu'à la sixième année. Donc, tu as des activités déjà proposées avec une programmation déjà proposée.
Alors, je me demande si je parle du bon. OK, ça c'est le scénario pour mieux écrire.
Ouais.
Alors, ce que je vais faire, c'est dans les notes pour l'épisode, je vais inclure ce manuel dans les notes avec Cam.
Ouais. Avec et c'est pas sponsorisé, etc. Là. Et du coup, Afrique fait partie d'une exception, tu vois. Donc, il faut en parler aussi aux enfants. Parce que Africain, Afrique, si on en parle, ça peut être. Mais d'abord, présenter la régularité orthographique.
Est-ce que tu présentes les exceptions en même temps que tu présentes la règle ou est-ce que tu attends un couple de jours, disons?
Très bonne question. Mes élèves en difficulté, je vais leur dire, mais d'abord, je veux qu'ils s'assurent qu'ils ont bien compris la règle. Après, je vais leur dire. En fait, tu sais quoi? Des fois, il y a des élèves en difficulté qui me disent des mots et là, je fais « Ah, mais celui-ci, c'est un hors-la-loi
oui. ».
C'est toujours ce mot-là qui sort.
C'est toujours ça quand j'enseigne les règles orthographiques. « Mais madame, ce mot. »
Exact. Fait que, et en fait, ils comprennent que c'est un hors-la-loi, puis ils aiment ça, en fait. Ils aiment ça, les hors-la-loi. Mais ça veut dire aussi qu'ils sont capables d'intégrer qu'il y a une règle orthographique. Donc, moi, j'insiste un peu plus sur les règles orthographiques, surtout pour les élèves en difficulté. Mais ils sont au courant. Alors, est-ce que j'attends ou j'attends pas? Ça dépend du contexte.
J'aime juste que tu dises hors-la-loi, parce que là, c'est comme on imagine. C'est comme des personnes qui... des criminels. C'est... je pense comme au Western.
Mais je pense que j'ai pris de scénario pour mieux écrire. Je pense qu'eux, ils appellent ça aussi des hors-la-loi. Ouais.
Okay. Évidemment, je n'ai pas lu le manuel encore. Le
non, il n'y a pas de problème. Et tu sais, là, je te fais un scoop, là, mais moi, je suis en train de travailler sur du matériel, justement, pour faire une progression d'orthographe avec des dépistages, etc. Parce que, avec les règles régularité orthographique, pour que ça soit un petit peu plus... qu'on puisse encore plus différencier dans sa classe. Tu vois, que juste pas qu'on prenne une méthode et qu'on suive la séquence de la méthode. Mais moi, ce qui me frustrait, c'est qu'on prenait une méthode, mais on ne suivait pas les besoins des élèves. Fait que là, j'essaie de trouver un moyen. Donc, comment on peut enseigner les règles qui me semblent importantes à enseigner, mais tout en adaptant selon les besoins de son groupe. Fait que là, moi, je suis en train de cogiter à ça en ce moment.
Oui, et là, ça me revient un peu à ton... pré-test et ton post-test de voir où est-ce que les élèves sont rendus. Est-ce que ça, c'est des tests que tu avais juste inventés ou est-ce que ça vient d'un document précis, par exemple?
Alors, moi, je l'ai fait moi-même parce que, bon, comme je te dis, j'adore ça, etc. Mais il existe des tests qui sont faits. Alors, je vais faire de la pub, c'est pour Fino Éducation, c'est pas une collaboration, mais Fino Éducation, ils ont fait deux tests, un pour les plus jeunes et un pour les plus vieux. Le plus vieux, sur les régularités orthographiques, s'appelle Régulo. C'est une trentaine de dollars et c'est en PDF. Je pense qu'on peut le télécharger en PDF ou sinon on le reçoit par la poste. C'est québécois. Donc Régulo, et puis l'autre pour les plus jeunes, c'est Grafo quelque chose, j'ai oublié le nom, je m'excuse.
Non, ça va.
Donc Fino Éducation. Et là, c'est eux, c'est une orthopédagogue qui a cette compagnie-là, donc c'est vraiment plus spécialisé aussi avec élèves à difficulté. Donc ils ont plein de matériel. Ils ont aussi un matériel où il y a toutes les syllabes de la langue française qui est répertoriée, etc. Ça, c'est partie de ces produits populaires. Donc tu sais, quand tu es dans les plus jeunes classes où tu dois mettre des syllabes, où les enfants doivent lire des syllabes, où ils doivent segmenter une syllabe, tu as juste à prendre une carte et puis là, tu peux faire... leur faire lire ça, quoi. Donc, ça peut être ça aussi. Je voulais faire comme une mise en situation et puis voir comment on peut faire la différenciation.
OK.
C'est une observation que j'ai vue. À un moment donné, il y avait la cloche qui sonne et là, tu vois, les enfants étaient en train de faire leur feuille d'exercice ou dans leur cahier d'exercice. Et là, la cloche sonne. Donc là, tu as des élèves qui mettent leur feuille, boum, dans leur bureau, tu vois, en vrac, Ceux qui mettent un peu plus organisé, ils vont le mettre dans leur classeur cartable. Je dis classeur cartable parce que je ne sais jamais, en France, je ne sais jamais lequel on dit. Alors, je dis classeur cartable maintenant.
Oui, au Canada, on dit cartable avec les anneaux. Mais j'ai une élève qui vient de la France en matière de classe cette année, puis elle dit comme cartable, comme ça, c'est notre sac à dos. Je suis comme, non, pas pour nous.
Cette semaine, ça m'est arrivé. Je dis, OK, mets cette feuille dans ton cartable. Et là, l'enfant, il part. Et je fais, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est parti, je viens de chercher son cadeau. Puis je dis, ah non, je me suis trompée. Fait que le prof, il dit, ah non, c'est l'autre. Je dis, ah mince, je me suis trompée. En tout cas, voilà. Bref. Donc là, et on veut, tu sais, comme. Donc la cloche sonne, les enfants se précipitent, ils rangent leurs feuilles. Et nous, on veut donner des explications à l'oral. Bref, ça ne marche pas. Parce que notre message, il ne passe pas à la fin. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie l'heure et on voit, OK, il reste 5 minutes. Là, on demande aux enfants d'arrêter. Et là, on va faire une objectivation. On va leur demander, OK, moi, je dis, je vais demander à 3 élèves, levez votre main, 3 élèves, qu'est-ce que vous retenez de la séance? Et je fais ça aussi quand je travaille en individuel avec un enfant. À la fin, je prends toujours 3 minutes. OK, qu'est-ce que tu as retenu de la séance? Quelle est la stratégie que tu vas utiliser? Et en contexte de classe, quand moi, je travaille en individuel, en contexte de classe, comment tu vas pouvoir l'utiliser? Donc ça te permet de voir, OK, est-ce que mon objectif de ma leçon a été atteint? Est-ce que les enfants retiennent ce que je voulais? Et des fois, on a des surprises bonnes et des fois mauvaises. On se dit, ah, OK, c'est pas du tout ça. À un moment donné, j'avais fait une leçon sur l'attention avec un élève, avec un groupe d'élèves de 6e année. Et ce qui est ressorti à la fin, c'était pas du tout par rapport à mon objectif. Donc là, je me suis dit, OK, bon, il va falloir que je refasse, que je change, que je modifie. Donc, juste pour nous aussi, ça nous permet de nous ajuster. Même nous, on fait des erreurs là, et puis ça permet aussi de vérifier nos erreurs.
Oui, absolument. On a fait tous, on doit réenseigner des concepts parce que, oui, c'est pas. Et souvent, c'est juste, hey, comme on est des êtres humains aussi, puis parfois, comme on pense à autre chose en même temps, comme on est en train d'enseigner, comme c'est normal, ça nous arrive.
C'est ça, c'est le rôle de l'erreur, en fait, c'est de s'ajuster, c'est d'apprendre et de s'ajuster. Aussi, une chose que j'ai vue sur les réseaux sociaux, c'est le tableau de choix. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et là, ça fait un peu écho à la conception universelle des apprentissages. On a un objectif et on propose aux enfants des modalités. On va parler de l'auteur Élise Gravel. Je recommence sur Élise Gravel. Et là, on va proposer aux enfants, donc on va dire notre objectif et on va demander aux enfants de nous présenter Élise Gravel. Mais ils vont avoir le choix, eux, de nous le présenter. Alors, ça peut être à l'oral, ça peut être sous forme de vidéo, ça peut être une affiche, ça peut être lire un livre et faire des commentaires au fur et à mesure. Donc, c'est différents supports, moyens. Mais notre objectif est une fiche de lecture, mettons, sur l'auteur Élise Gravel. Donc ça, je trouvais ça très intéressant, surtout pour les élèves qui peuvent avoir un goût pour la vidéo, mais qui ne sont pas à l'aise à l'oral, tu vois. Donc, ils vont pouvoir utiliser un autre support. C'est les enfants timides qui n'aiment pas parler en public. Donc, ils peuvent s'enregistrer, puis hop, on montre la vidéo. Comme ça aussi, les élèves qui sont moins à l'aise avec la langue française, ils vont pouvoir s'entraîner avant, ils s'enregistrent, et puis là, on voit le français, quoi. On n'est pas là pour les mettre dans des pièges, tu vois.
Oui, exactement. C'est comme... Et puis... qui s'enregistre, ensuite on écoute ou qui le fasse direct, c'est la même chose qu'on est en train de pratiquer de cette façon.
Exact. Toujours garder en tête c'est quoi notre objectif. Mm-hmm. Il y a aussi le site du Récit, c'est un site québécois, et il montre les niveaux d'accessibilité d'un document. Donc, dans le fond, c'est super intéressant. Et il y a un niveau 1 d'accessibilité, c'est-à-dire comment on peut rendre donc, accessible, ça veut dire pour tous les élèves qu'un document soit lisible. Donc, comment ce document-là peut être lisible par tous les élèves, peu importe, entre guillemets, l'handicap ou les difficultés, les obstacles qu'on peut trouver dans notre classe. J'avais un exemple d'une enseignante qui avait fait une feuille de leçon puis qui avait surligné de différentes couleurs toute sa leçon. Et là, il y avait une surcharge de couleurs, etc. Donc, ce que dit le Récit dans leur document d'accessibilité, c'est qu'en fait, déjà, faciliter le contraste entre le fond et la couleur de la police de caractère. Donc, noir sur blanc, c'est un des meilleurs. Privilégier aussi une typographie, je pense que c'est 14 ou 12 au niveau de la taille, et aussi une typographie courante. Il y a beaucoup de documents qu'on peut trouver sur les boutiques mieux enseignées ou teacher per teacher avec des belles calligraphies, des petites fleurs, etc. Mais au niveau de la lisibilité, c'est l'enfer.
Oui, exactement. Parfois, c'est dur pour moi de lire ces polices-là.
Exactement. Et si on veut le scanner puis proposer ça à un élève qui a une aide technologique, ben ça se lit mal, en fait. Donc, il faut vraiment aussi que ça soit possibilité de le mettre en support techno. Il faut que c'est aussi penser à ça. Il y a aussi l'aligner seulement à côté gauche, prévoir un espace entre chaque ligne de 1.5 si mes souvenirs sont bons. En tout cas, dans ce document-là, il y a toutes sortes de suggestions pour un niveau d'accessibilité. Et le niveau 1, en fait, il y a des choses qu'on fait déjà. Donc, c'est vraiment abordable. C'est pas une surcharge de temps supplémentaire. Il y a des choses qu'on fait déjà. Et pareil, de ne pas trop surligner la couleur. On y va juste avec une couleur. Et attention, surligner les mots-clés, ce n'est pas forcément une stratégie, la meilleure stratégie d'apprentissage. Donc, c'est plus de répéter avec des espaces espacés. Donc, mettons, le faire une fois, répéter dans 2 jours, répéter dans 4 jours, etc. Ça va être plus ça, une des meilleures stratégies d'apprentissage aussi.
De répéter comme la même lecture d'un texte?
La notion, oui, la notion. Puis okay. Se tester au fur et à mesure, tu vois, de ses connaissances pour favoriser la mémorisation, dans le fond. Fait que c'est ça. Et puis, aussi, ce que je faisais, c'est que, tu sais, quand on fait lire un texte à un enfant, puis qu'il y a un élève qui est en difficulté, moi, je préviens à l'avance l'enfant. Je lui dis, regarde, toi, tu vas lire. Surtout, les élèves qui ont un déficit d'attention, quand tu lis en grand groupe, la plupart du temps, ils n'écoutent pas. Ils partent ailleurs, ils ont un déficit d'attention. Ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça. Fait que moi, je leur dis, au lieu de partir ailleurs, là, je ne leur dis pas ça, mais je leur dis, tiens, regarde, je vais te faire lire ces 2 phrases-là. Fait qu'entraîne-toi pendant ce temps-là. Quand ce sera ton tour, je te le dirai, puis là, oup. Parce que moi, ce que je veux travailler, c'est la lecture, c'est le décodage. Fait que là, ils s'entraînent à l'avance. Hop, quand c'est leur temps de lire, ils sont contents, ils sont fiers d'eux, ils ont lu leur phrase. Puis après ça, je refais un résumé de qu'est-ce qu'on a dit, etc. Mais pendant la lecture en grand groupe, généralement, ils n'écoutent pas. Donc, j'ai trouvé ça comme stratégie. Je ne dis pas que c'est la meilleure, mais j'ai trouvé ça.
Oh my gosh, ça c'est qu'est-ce que j'ai fait cette année avec un sous-groupe d'élèves en lecture. Puis exactement ça, c'est comme l'élève n'était pas du tout en train d'écouter, mais j'aurais pu essayer ça comme stratégie.
Mais moi, c'est du essai-erreur. Hein. C'est que je me dis, OK, de toute façon, il n'écoute pas. Fait comment je vais faire pour qu'il reste avec moi, connecté
exact.
À moi?
Exact.
Ben, il va s'entraîner à lire. Fait que c'est ça.
Au moins, il est en train de faire quelque chose en lien avec ton objectif.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, des fois, il part quand même. Hein. Il part ailleurs. Je suis comme, non, regarde, entraîne-toi à lire. Mais bon, c'est de la pratique, là. Je voulais parler aussi du plan d'intervention. Et là, on pourrait encore faire un autre podcast sur le plan d'intervention, mais je vais en parler un petit peu. Parce que plan d'intervention, ou IEP, là, souvent, je vois plein d'objectifs pour un élève qui est en difficulté. Alors, les élèves en difficulté, souvent, ils ont aussi beaucoup de difficultés. S'il y a un problème de décodage, ça se peut qu'il y ait un problème de compréhension, comme on disait tout à l'heure. Ça se peut, comme si c'est un élève qui a un déficit d'attention, ça se peut qu'il ne soit pas organisé. Après, s'il y a le vocabulaire, parce que c'est sa langue minoritaire, en tout cas, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de difficultés. Fait qu'on va plutôt privilégier 2 ou 3 objectifs pour l'enfant. Nous, ce qu'on fait dans notre école, c'est qu'on a un objectif en français puis un objectif en anglais. Parce que aussi il a l'enseignement de l'anglais, fait qu'on lui donne un objectif en anglais, puis un objectif en français, et puis après s'il a un objectif, alors soit c'est lecture, soit c'est écriture, ça peut être les deux des fois. Donc ça ferait 2 objectifs mettons en français, puis un objectif en anglais, ou ça peut être un objectif en lecture, un objectif en anglais, et puis un objectif sur les relations sociales ou l'organisation, tu vois, ça peut être ça, bref. Et il faut que l'objectif soit SMART. Je ne sais pas si tu connais les objectifs SMART, oui?
Oui, je connais.
Donc, il faut que ce soit, alors, il faut que tu m'aides si j'oublie, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et mesuré dans le temps. Le T, c'est le temps. Donc, exemple, à la fin, à la fin de l'année scolaire, mettons, ou au mois de décembre, j'y vais plus par tranche de 6 mois à peu près, ou 4 mois, Bob sera capable de... Alors là, j'y vais hyper précis parce que je veux voir le résultat. Fait que j'y vais, mettons, sera capable d'écrire des mots de syllabes consonnes voyelles de niveau première année, mettons, avec un pourcentage de réussite de 50%. S'il est rendu à 0%, je vais le mettre à 50%. Puis peut-être après, au lieu de 50, je vais augmenter à 80%. Puis 80%, je suis heureuse, je change d'objectif. Donc, on essaie d'y aller progressif, réaliste, atteignable. C'est pour ça que je ne donne pas tout de suite un 80% et je mets une limite de temps. Et de voir qu'il peut écrire des mots consonnes, voyelles, moi, je vais pouvoir le voir concrètement. Donc, je vais pouvoir le mesurer et voir si mon objectif est réussi. Parce que si je lui dis écrire des mots, exactement, on hausse les épaules. C'est énorme, c'est énorme.
Oui, alors ça, c'est très similaire, je dirais, au plan d'intervention Manitoba. C'est très similaire à ce qu'on fait. Puis, moi, j'en ai déjà fait comme un plan d'intervention pour 6 semaines aussi, pour un élève qui apprenait le français. Elle ne parlait pas l'anglais non plus. Donc, dans l'école francophone, elle apprenait le français en 5e année. Donc, on a fait, en fait, plusieurs petits plans pour vraiment cibler certains apprentissages qu'on voulait qu'elle fasse. Puis ça a très bien marché, en fait.
C'est ça, tu as raison. Il faut faire du micro-progression. Si c'est un trop gros objectif, ça ne marchera pas. Ça va être décourageant et pour nous et pour l'enfant.
Oui, c'était le fun de voir comme, wow, elle a vraiment comme intégré ça, comme elle a vraiment retenu ces concepts-là. Puis là, c'était comme, OK, c'est quoi la prochaine étape? J'aime le faire, c'est plus de travail parce que tu dois te rencontrer avec une autre personne parfois puis établir le plan, mais j'ai aimé le faire petit à petit parce que là, comme tu as dit, c'était plus encourageant, motivant de voir son progrès. Puis là, on était plus concentré sur, on a mis comme l'accent sur de petits objectifs, puis là, tu vois que ça roule.
Exact. Puis tu sais, je pense, quand on fait des évaluations, quand les évaluations sont faites par des professionnels, tu sais, genre psychologue, neuropsy, etc., de donner ce document-là aussi, quand ils sont en train de les évaluer, ben, ça leur permet de voir aussi leur progression et leur progrès. Je trouve que c'est enrichissant aussi pour nous, enseignants, mais aussi pour des professionnels qui travaillent à l'extérieur ou qui vont évaluer ces enfants-là.
Ouais. Oui, c'est un bon point.
Je voulais faire aussi, on parlait de déficit d'attention ou problème d'attention sans que ce soit un trouble, une mise en situation, chose que j'avais observée aussi dans une école. Les élèves, je ne sais pas pour toi, mais nous, voici ce qui arrive, c'est que les élèves, ils arrivent de la récréation, puis là, ils disent « Oh, est-ce que je peux aller boire ? Oh, est-ce que je peux aller aux toilettes ?» Puis là, les élèves, ils reviennent, mais genre un par un, tu sais, au compte-gouttes, là. Oui. Puis là, t'attends. Puis là, à chaque fois qu'il y a un élève qui arrive, tu dis « Ok, sors ton cahier rouge. Ok, sors ton cahier rouge. » Tu sais, tu le répètes 36 000 fois, en gros, là. Puis si un élève n'entend pas, il faut que tu lui répètes 3 fois à cet élève-là. Bref, c'est l'enfer. Puis là, notre fameux Bob, il n'a toujours pas sorti son cahier rouge.
Oui, et là, ça t'énerve. Il voit que tout le monde a son cahier rouge sorti sur son bureau. Puis il ne l'a toujours pas fait. Oui, ça c'est... Alors, c'est l'enseignement.
C'est ça, ouais, se répéter. Alors, moi, je me suis dit, OK, il faut que je trouve une solution parce que là, je vais m'épuiser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je projette au tableau ce que j'ai besoin, puis je marque cahier, crayon, puis cerveau. Donc, les 3 C. Donc là, puis j'ai une image, bien sûr, mes pictogrammes, de mon cahier rouge, d'un crayon, et puis le cerveau, je ne fais pas d'image, mais on pourrait faire une image en tout cas. Ça peut faire une image, puis les enfants sont attirés, ils trouvent ça rigolo, puis ils le font. Ça peut être ça aussi. Donc, premièrement, quand ils arrivent, ils voient au tableau qu'est-ce qui est projeté. Les 3 C, cahier, crayon, cerveau. Et cerveau, c'est juste pour la blague. Et ce que je fais aussi, c'est que, et peut-être que tu utilises aussi cette stratégie-là, c'est que je dis aux enfants, à l'enfant, mettons, « Ah, merci Billy d'avoir sorti ton cahier rouge. » Puis je ne dis pas juste « Merci Billy, merci Billy d'avoir sorti ton cahier rouge. » Puis là, je cible les élèves autour de Bob. Fait qu'à un moment donné, Bob, il fait comme « Ah, OK, il réalise qu'il faut qu'il sorte son cahier rouge. » Mais dans « Merci Billy, merci Anne, merci ta-ta-ta-ta-ta-ta », peut-être qu'en ciblant l'objectif qu'on veut, le comportement qu'on veut aussi. Ouais. Et là, on peut commencer, tout le monde est prêt, c'est bon, toute attention est là, on peut commencer. Ça, c'est petite astuce.
Je fais beaucoup de ça. Puis en fait, j'ai dû cette année dire à mes élèves, vous pouvez seulement aller à la toilette ou boire de l'eau à ces temps-ci. Parce que c'était ridicule. Et là, c'était comme, ben, madame, est-ce que je peux remplir ma bouteille? Non, tu vas pas mourir si tu ne remplis pas ta bouteille maintenant. Donc, voici les temps, c'est au tableau. tu dois remplir ta bouteille d'eau pendant ce temps. Évidemment, si les élèves disent que c'est urgent, je vais les laisser aller à la toilette. Mais pour boire, comme remplir sa bouteille, là, mais tu avais 25 minutes de récréation. Pourquoi est-ce que tu n'as pas rempli ta bouteille pendant ce temps? En tout cas, j'ai dû parce que c'était devenu ridicule.
Oui, ah non, mais écoute, je pense que c'est une question qui revient très souvent sur les groupes Facebook de profs. Comment gérez-vous les pauses toilettes et les pauses boire de l'eau? C'est sûr.
Oui, c'est ça. Et parfois, on sait que nos élèves qui sont comme, ils ont un trouble d'attention ou juste des problèmes d'attention, ils font ça parce qu'ils doivent bouger leur corps aussi. C'est pas forcément parce qu'ils ont vraiment besoin d'aller à la toilette.
Oui. Moi, j'ai un élève, il est en sixième année, donc il a plus une maturité, mais je lui ai fait observer que pour se mettre au travail, ça lui prenait 20 minutes. Après, il se mettait au travail pendant 10 minutes. Et les 10 dernières minutes, plutôt si ça dure 50 minutes, là, il n'était plus là. Il n'avait pas observé ça. Je lui ai dit, regarde, à chaque fois, tu te mets au travail, ça te prend 20 minutes. Donc là, on a essayé de trouver des stratégies. Maintenant que je lui ai dit qu'on a verbalisé, je lui ai dit, regarde, tu sais que pendant 20 minutes, tu ne vas pas être actif. Comment on pourrait faire pour que tu sois un peu plus actif, etc., etc. Et j'ai vu une amélioration. J'ai vu qu'il s'était augmenté son temps de travail. Je ne dis pas que c'est révolutionnaire. Je ne dis pas que pendant 50 minutes, il se met au travail. Mais je sais que les 10 dernières minutes ou les 5 dernières minutes, il ne sera pas là. Fait que je n'insiste plus à la fin du cours. Je me dis, OK, déjà, il a fait son travail, je l'ai encouragé, etc. Mais d'observer aussi ses comportements et de lui dire, verbaliser, puis de faire une rencontre une fois par semaine, si on peut. J'avais une prof qui appelait ça une rencontre biscuit. Avec un enfant, ils s'asseyaient, puis ils mangeaient un biscuit, puis ils parlaient de leur objectif de la semaine, etc., de leur comportement. Donc, ouais.
Et le fait de marcher, ça l'a aidé à se concentrer?
Ben, la rencontre biscuit, c'est juste de parler, tu vois, c'était pas pendant le travail.
Okay.
Ouais, ouais. Okay. Après, il y a d'autres aides que tu peux faire pour maintenir l'attention, mais c'est vrai que des petites pauses. Pour les plus jeunes, c'est d'aller donner une lettre fictive à la secrétaire, puis de revenir. Okay. Nous, dans notre école, on a les corridors actifs. On a déjà parlé, je pense, des corridors actifs, non?
Je pense pas.
Non, corridor actif, c'est comme des stickers qui sont sur le sol ou sur les murs. Et les enfants viennent faire une pause active, puis ils reviennent dans le couloir.
Oui, donc, en fait, on a ça dans notre école. La première année qu'on a ça, on a comme des bûches et des grenouilles, puis comme des choses qui disent « inspire, expire les nombres de 1 à 10, les lettres de l'alphabet. C'est vraiment cute. Les enfants adorent ça.
Ouais. Et ça, par contre, au niveau des comportements, il faut que ça soit modélisé, expliqué, etc. On ne veut pas juste envoyer l'enfant et qu'il ne sache pas comment utiliser les corridors actifs. Pareil comme le tabouret qui bouge, etc. Ça se modélise et c'est basé, les comportements que l'on veut, la charte de comportement qu'on veut est basée sur les valeurs de l'école aussi. En tout cas, il y a comme... Après, ça, c'est plus les gestions des comportements. C'est encore un autre podcast, mais bref.
Oui, c'est ça.
Puis je voulais finir aussi avec les enfants qui ont un trouble du langage écrit, comme la dyslexie. Je voulais parler un peu de faire une parenthèse sur ça. Comment on peut observer? Comment on peut aider, mais comment observer en fait? Au niveau de l'aide, il y a les aides de compensation avec l'ordinateur. On a parlé tout à l'heure de rendre des documents accessibles avec le site du récit. Il y a les logiciels d'aide aussi à la lecture, de plus en plus développés sur les plateformes. Les livres audio qui existent de plus en plus aussi. Mettons, on a une copie d'élèves, puis là, c'est plus, on parle plus de première, deuxième année ou un nouvel élève qui arrive d'une autre école, puis on ne le connaît pas. On peut observer 4 chose qui nous fait dire, il y a une grosse difficulté. Peut-être trouble ou pas, mais en tout cas difficulté. Une des premières opérations, c'est l'inversion. Les enfants qui font vra à la place de var. On appelle ça une inversion. Alors, si c'est une fois de temps en temps, c'est pas ça. Ça peut être une intention, mais c'est vraiment quand ça revient très souvent quand même. Souvent, le R ou le L, bon, en fait, c'est ces deux lettres-là qui sont en consonne voyelle. Ça, c'est assez. C'est pour ça que moi, quand je fais mes portraits de classe, mes dépistages de septembre, pour les premières, deuxième et même des fois troisième année, je leur donne des mots et je regarde juste la composition des syllabes. Parce que consonne voyelle et consonne voyelle consonne, c'est les 3 syllabes qui reviennent le plus dans la langue française. Fait que je vais regarder ça. On peut regarder les ajouts aussi. Moi, j'ai un élève hier qui m'écrivait « Pourquoi ?» P-O-U-R-Q-U-E-O-I, ou oiseau, O-I-A-S-E-A-U. Donc, il rajoutait des sons comme ça. Donc, on est plus vraiment dans les sons, à rajouter des sons. Donc, ça ferait pour que wa ou wa-azo, en fond. Donc, ça, c'est des petits indices qui peuvent nous dire. Les substitutions, et là on est vraiment dans les sons proches comme f et v, va à la place de va, tu vois. Le grand classique b et de. Attention, ça ne veut pas dire qu'il mélange, qu'il écrit b et de, qu'il est dyslexique. Il faut faire attention. C'est vraiment des sons proches ou des omissions. À la place de vra, il va écrire va. Donc ces quatre opérations-là, on va les regarder. On peut et on passe toujours par la. Si on est à l'aise avec la transcription phonétique, on peut le faire. Et là, on voit qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a fait? Une inversion, un ajout, substitution, omission. Et là, on peut faire du sous-groupe. Fait que si on a une orthopédagogue ou un resource teacher, elle peut faire des sous-groupes très intensifs, ciblés, fréquents sur, mettons, 6 semaines ou 8 semaines. Et là, on travaille beaucoup là-dessus. Et ça peut aider. Surtout si c'est une difficulté, ça va être temporaire. Si c'est un trouble, c'est persistant. On peut quand même voir une amélioration même avec des élèves quand même.
J'ai eu beaucoup de ça avec mon petit sous-groupe de cette année. Puis ce que j'ai fait, en fait, c'est que je vais chercher des pseudo-mots. Puis on a vraiment pratiqué à découper des mots qui n'étaient pas de vrais mots. Parce que l'affaire, c'est qu'ils devinaient tellement, ces élèves-là. Ils devinaient comme 3-4 fois et éventuellement, ils ont eu le bon mot. Mais c'était comme, mais ça, c'est pas la lecture. Donc, j'ai trouvé aussi travailler les pseudo-mots et vraiment devoir lire de gauche à droite et vraiment se concentrer sur la position des lettres et l'ordre des lettres était vraiment efficace pour ce groupe-là, de toute façon.
Ouais, on commence d'abord avec une syllabe simple, puis après on peut faire des mots de 2 syllabes. Revenir à la conscience phono aussi. Quel est le premier son que tu entends? Est-ce que tu es capable de mettre 2 sons ensemble, 3 sons ensemble? Combien il y a de sons dans un mot? Donc revenir. Attention, quand on fait de la conscience phonémique ou phonologique, mais phonémique, donc vraiment que des sons, il n'y a pas de support écrit. C'est que par des images. Mais on peut après le travailler, mettons, quand moi je travaille des mots de la dictée avec mon sous-groupe de première année, ben j'ai un dé, je lance le dé, là, ils adorent ça. On a donc 5 mots de la dictée, là je lance un dé, puis c'est combien de voyelles, combien de consonnes, épelles à l'envers, combien de sons dans le mot, etc. Donc ça, c'est ces petits jeux comme ça qu'on peut faire en sous-groupe pour travailler, ça peut être donc juste des syllabes ou des mots un peu plus complexes. Et puis, pour travailler les mots de la dictée aussi, ce n'est pas toutes les graphies mélangées, c'est une graphie à la fois, etc. Voilà, je pense que j'ai fait le tour à peu près de la différenciation. Je ne sais pas si tu avais des questions, des cas d'élèves qui te venaient en tête.
Non, mais tu sais quoi, tu as donné tellement de bonnes idées de comment on pourrait faire. Puis là, c'est à nous de faire un peu de recherche puis trouver comme j'ai vraiment aimé surtout les règles orthographiques parce que ça, c'est quelque chose que je travaille en 5e année. Ça va, de plus en plus, ça va devenir plus acquis à cause du fait qu'on a changé notre manière d'enseigner la lecture et l'écriture de notre division. Mais on doit attendre que ces groupes-là atteignent la 5e année pour voir les effets de ça. Ouais. Donc, je trouve que oui, les élèves n'ont pas appris pareil orthographique, donc c'est quelque chose que, wow, leur orthographe, et c'est ridicule comment ils écrivent des choses comme c'est vraiment... Mm. Oui, donc je vais certainement intégrer ces idées-là, puis j'aime beaucoup aussi le carnet de réflexion que les élèves doivent redire dans leurs propres mots, qu'est-ce qu'ils ont retenu de la règle orthographique, par exemple, puis... choisir leur propre exemple qui va les aider à s'en rappeler. J'aime beaucoup ça.
Puis, on n'a pas trop parlé, parce qu'on a parlé dans d'autres podcasts avec la grammaire puis le plurilinguisme, comment jongler entre français et anglais. Mais il y a ça aussi, cette approche-là de comparer avec l'anglais. On a parlé des congénères dans l'autre podcast sur le plurilinguisme. Fait que ça aussi, c'est parmi des adaptations qu'on peut mettre en place, comparer les 2 langues, faire une réflexion, donc travail métacognitif, métalinguistique sur les langues aussi, quoi. C'est partie des adaptations, en fait, qu'on fait à toute la classe.
Et merci encore d'être venu virtuellement avec moi aujourd'hui.
Ça m'a fait plaisir.
Moi aussi. Merci.
Jason Éducation est un balado créé et réalisé par moi-même, Juelle Boulay, en collaboration avec WebWest Balado. Pour ne jamais manquer un épisode, abonnez-vous à Jason Éducation sur votre appli de